Oui, bonjour, bonsoir. Comme chaque vendredi de chaque mois, nous parlons théâtre. Voilà, nous essayons de vous convaincre d'aller au théâtre. L'art de l'avenir, comme je le dis toujours, hein, avec l'IA. Hein, maintenant, on va avoir de plus en plus besoin du vivant. On va avoir besoin d'avoir des êtres vivants en face de soi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est l'essence même du théâtre, ce vivant-là. L'éphémère. Voilà, le vivant, voilà. Donc, aller au théâtre à cause de ça et pour ça. Donc, aujourd'hui, j'ai invité, nous ne sommes pas en direct, hein, l'émission est enregistrée. D'habitude, c'est du direct. Là, pour ce mois d'août, parce qu'évidemment, il faut un petit peu aller travailler, écrire, aller dans des festivals, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en juillet et en août, on n'est pas là. Mais donc, ça n'est pas du direct, mais voilà, j'ai quand même invité un ami, un homme que je respecte et qui est un type assez formidable, qui s'appelle Luc Hamet et qui est le directeur du théâtre d'Edgar. Voilà, donc...
Mais que de compliments
mais vous savez que... Ce sont des compliments sincères.
Ben, je sais que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sincère et c'est vrai que je suis très touché de votre invitation que je n'imaginais pas. Et vous allez voir que c'est imbécile, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour vous, vous êtes directeur de théâtre
aussi,
et vous n'êtes pas dans les plus riches, loin de là, cela dit j'en suis un autre, et nous essayons de faire avec notre jauge, hein, vous avez 70 places, j'en ai 132 au Théâtre Edgar, mais nous ne faisons pas la même chose, et... C'est pas du tout le problème de notre métier, c'est le jugement. Très souvent, vous êtes dans un secteur que moi j'estime, c'est ce que je vous disais avant qu'on rentre en studio. Vous êtes dans un secteur ô combien plus sensible que moi. Moi, je fais de la comédie, je distrais, j'ai fait ça toute ma vie en tant qu'acteur. Ça fait 45 ans que je fais rire et que je n'ai pas du tout envie de faire autre chose parce que c'est ma culture, c'est ma passion, c'est mon envie. Et vous faites des choses extrêmement pointilleuses, des choses... Si, vous avez un théâtre de 70 places, vous faites Lorenzatio, vous avez 15 comédiens sur le plateau. Excusez-moi, Jean-Luc, chapeau. Donc voilà, je suis extrêmement... Mais ça ne m'étonne pas de vous. Nous sommes dans un métier assez cloisonné, vous le savez. Et vous faites partie des gens qui font des ponts. On peut dire ça comme ça. Et je suis très touché de ça parce que moi, quand vous venez chez moi, comme tous les directeurs de théâtre, j'ai toujours la crainte...
du méchant critique.
Alors, vous n'êtes pas méchant. Vous n'êtes pas méchant, vous écrivez très très bien, sans flagornerie aucune. Mais quand vous n'aimez pas, vous le dites. Et somme toute, c'est votre métier.
C'est mon métier, bien sûr.
Voilà, oui, mais vous savez, c'est un métier qui n'existe plus, Jean-Luc.
Moi, je sais, la critique, ça n'existe plus.
Ça, voilà, ça n'existe plus
si
parce que...
Si maintenant, vous avez billet réduit, alors avec des gens qui
donnent leur avis sur tout.
Et voilà, et sans signer.
Alors, et sans signer, et en disant que les... je vais vous la donner, la critique principale, c'est on est mal assis. Voilà. Donc, évidemment, et moi, ce que je réponds en général, quand je peux répondre, parce qu'en général, on n'a pas le droit de réponse, je dis, mais sinon, le spectacle vous a plu. Ce qui n'est pas plu à vos fesses, c'est une chose, mais est-ce que le spectacle vous a plu? Donc voilà, je voulais juste, par rapport à la gentillesse avec laquelle vous m'accueillez et la manière dont vous parlez en préambule de qui je suis, dire que moi, j'ai aussi beaucoup de respect pour vous et que cette invitation me fait énormément plaisir.
Oui, en fait, il y a deux salles au Théâtre du Nord-Ouest. Il y a une grande salle et puis une salle de 100 places et puis une autre de 60, 65, 70 places. Quoi, voilà. Mais, et on fait effectivement une programmation très différente. En général, c'est souvent axé autour d'un auteur. Là, en ce moment, c'est Musset. Donc,
oui, d'où Lorenzatio.
Voilà, d'où Lorenzatio qui va se jouer. Alors, moi, j'aimais beaucoup un espèce de cinglé qui s'appelait Alain Mallet.
C'est-à-dire la personne à qui
maintenant.
J'ai racheté.
Voilà. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, comment ça s'est fait Parce que, quand même, racheter un théâtre à Alain Mallet, il fallait être couillu. Hein.
Oui, je crois que tous mes amis qui sont devenus mes amis directeurs de théâtre parisien s'attendaient très honnêtement et sans méchanceté aucune à ce que ça ne dure pas longtemps.
À ce qu'il te roule dans la farine.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qu'il a tenté de faire, je vous rassure.
Bien entendu, il le faisait avec tout le monde.
Voilà,
il n'y a pas de raison que tu échappes au...
Voilà, c'est pas vraiment vraiment quelqu'un de recommandable, on va dire. Et en fait, c'est pas Alain qui m'a vendu le théâtre, c'est Éric Emmanuel Schmitt.
Ah d'accord.
Parce que quand Éric Emmanuel Schmitt a acheté le théâtre Rive Gauche, il avait dans l'escarcelle de ce qu'il achetait, enfin dans le berceau, il avait ces deux petites salles qui étaient le café d'Edgar et le théâtre d'Edgar.
Le théâtre d'Edgar, voilà.
Comme tu le sais, sont...
Qui est boulevard Edgar Quinet.
Boulevard Edgar Quinet, 58 boulevard Edgar Quinet, et qui sont les berceaux du café théâtre. Voilà. À Paris.
Oui.
Parce que c'est lui, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César.
Pour César
ne pas
Malais.
Dire Alain. Voilà, César Malais, ça lui va pas mal. Hein. Et, ma femme l'appelait Voldemort. Parce que quand il avait son chapeau sur le boulevard d'Edgar Quinet, les nuits de novembre, il faisait assez Voldemort. Et donc, il a fait partie avec le Café de la Gare des inventeurs du Café Théâtre à Paris. C'est pas rien
quand même.
Pas rien. Et le Café Théâtre est né au café d'Edgar et au théâtre d'Edgar. Et donc, quand j'avais monté une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, on avait sympathisé. Je peux vous la raconter en deux secondes.
Bah oui, c'est fait pour ça.
Voilà. il ne voulait pas que je monte cette pièce. C'est-à-dire que moi, j'adorais sa pièce,
c'était
Le Visiteur.
Pièce. Oui, d'accord.
J'adorais cette pièce.
Il considérait que tu faisais du théâtre comique. Et donc
alors
M. Schmitt était à une...
Écoute, non, il faut être plus juste que ça. Tu n'as pas forcément tort.
Voilà.
Mais c'était pas présenté comme ça. C'est quand je lui ai proposé de proposer le rôle de Dieu
oui.
à Francis Lalanne.
Ah.
Alors là, il y a eu une espèce de blanc énorme et j'ai senti que c'était pas vraiment ce qu'il imaginait. Alors,
parce que Lalanne est aussi un peu piqué, donc
Il est totalement piqué.
Voilà.
Donc, mais c'était génial parce que Francis Lalanne dans un Dieu enfant qui rend visite à la psychanalyse, c'était quand même super intéressant.
Oui, ça c'est.
Et mais bon, j'ai fait que de la comédie. Toute ma vie, j'ai produit, mis en scène et joué de la comédie. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mec qui me propose ça ? Enfin, bon, bref. Et il avait comme agent quelqu'un de très bien, Bruno. Et Bruno m'a dit, bah, écoute, Luc, faisons une lecture. Et c'est très bien, vous savez que toute aventure théâtrale commence comme ça. Donc, j'ai organisé une lecture. Je n'avais pas de théâtre à l'époque. Et j'ai organisé une lecture au Théâtre Michel. Et Francis a fait une lecture extraordinaire. Et au sortir de cette lecture,
Schmitt,
les larmes aux yeux.
Ah, devant son œuvre, c'est normal.
Non, devant ce qu'a produit Francis, qui était formidable dans ce personnage.
Voilà, on va le dire comme ça.
Avec ses bottes en cuir, il était en Dieu, il était formidable.
Ben
et donc...
C'était lui-même. Quoi.
Voilà.
Voilà.
J'ai donc eu le droit de monter cette pièce. Nous avons fait une jolie tournée. Nous sommes passés à Issy-les-Moulineaux, dans ma commune, et au Passy. Et il est venu voir le spectacle monter. Il a trouvé que on avait un très beau décor, on avait des super costumes. Bon, bref, il a trouvé que c'était formidable. Une amitié est née. Et 6 mois après, j'ai un appel d'Éric Emmanuel et de son compagnon qui me disent « Luc, est-ce que tu serais partant pour un déjeuner ?» Je dis « Oui, avec plaisir. » Et on se retrouve au restaurant et ils me disent « Toi qui connais beaucoup de monde dans le théâtre, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé pour acheter le Café d'Edgar et le Théâtre d'Edgar ?» Et je m'entends répondre « Mais moi ?»
Ah oui.
Alors que j'avais... 2 secondes avant, jamais pensé qu'un jour j'aurais un théâtre. Et c'est parti comme ça. Et ils m'ont dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, attendez, je suis un être naïf, mais enfin, pas à ce point-là. Non, je te jure, Luc, on n'a pas pensé à toi, mais on s'est dit que tu connaissais plein de gens dans la comédie. Mais c'est vrai que ce serait complètement logique avec ton parcours. Il y a toujours eu que de la comédie dans cet endroit. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien le racheter, mais il faut que je sois sûr de pouvoir réunir les deux salles.
Bien
parce
sûr.
Qu'à l'époque, le Café des Gars...
C'était deux petits théâtres.
Deux petits
cafés théâtres.
Voilà.
J'y suis allé assez souvent.
Je me doute. Notre Alain Malais donc, disait qu'il mettait 60 personnes dans l'un et 80 dans l'autre, certainement empilées.
Très empilées,
très
ça empilées. Je peux le dire.
Donc, je vous passe les détails. Il y a eu, il a dû se passer au moins 8 mois. Et puis finalement, ils ont tenu parole. Et j'ai acheté... le théâtre. Et là, Alain Malep, dont vous parliez au départ, est entré en scène. C'est-à-dire que, comme c'était un droit au bail, parce que le théâtre était fermé déjà depuis un an et demi, il y avait eu des locations gérantes.
Est-ce que tu parlais du Grand Théâtre?
Non, je parle du Café des Théâtres. Ils étaient fermés depuis un an et demi parce qu'il y a eu une location gérance qui s'est mal passée. Enfin bon, bref.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il y avait trois lieux. Parce qu'il y a aussi le Grand Edgar qui maintenant...
Qui s'appelle le Théâtre Rive Gauche.
Voilà, qui s'appelle le Théâtre Rive Gauche.
Éric Emmanuel, en achetant le Théâtre Rive Gauche, a acheté la société d'Alain Malet qui détenait le Théâtre Rive Gauche, le Café d'Edgar, le Théâtre d'Edgar, qui étaient les créations d'Alain Malet. Et donc, Alain Malet est entré dans la danse parce qu'en tant que propriétaire des murs, il avait son mot à dire puisqu'on faisait une session de droit au bail. Alors, c'est totalement juridique, mais c'est pour ça que le propriétaire devait intervenir. Et alors là, ça a été une autre paire de manches. Parce qu'il voulait sa part du gâteau.
Bien sûr.
Sauf qu'il avait déjà vendu à Éric Emmanuel et que moi, je n'étais finalement que locataire. Et j'achetais le fonds, mais je n'achetais pas les murs.
Oui, tu achetais les bails, quoi.
Voilà, ça, exactement. Donc, ça a été un joli rodéo. Voilà, parce qu'il n'était pas facile en affaires. Et puis surtout, il n'avait jamais voulu, alors qu'il avait beaucoup de sous, il n'avait jamais voulu faire l'effort des travaux. Ce que j'ai fait à sa place, j'ai dépensé, pour être précis, 443 000 euros parce que j'ai cassé un mur porteur entre les deux petits théâtres qui détenaient tout l'immeuble. Nous avons fait venir les charpentiers de Paris, rien que ça, pour étayer, soutenir l'immeuble. On a fait rentrer en convoi exceptionnel la nuit sur le boulevard Edgar Quinet deux UPN qui tiennent maintenant l'immeuble au-dessus du théâtre. On a fait des isolations phoniques, on a tout refait, tout était dans l'état de 1970 où Alain Malet arrivait de sa province et avait fait ses deux petits théâtres avec les matériaux et, à mon avis, son huile de coude. Et tout était dans son jus. Je ne sais même pas comment ça pouvait encore rester ouvert. Et donc, nous avons tout cassé et fait un vrai théâtre, puisque vous y êtes venu.
J'y suis souvent.
Voilà, je vous en remercie. Et nous avons réuni les deux salles. Nous avons une jolie salle de 132 places, avec quand même un plateau de 8 mètres d'ouverture. Et vous savez qu'à Paris, il y a des grands théâtres qui n'ont pas 8 mètres d'ouverture.
Je sais bien.
Et nous, alors moi, je ne fais pas Lorenzatio, mais quand je fais un Phédo, ce qui m'est arrivé à deux reprises, et ça m'a d'ailleurs porté chance, Ciel, ma belle-mère a été jouée 200 fois, nous étions 8 sur le plateau.
C'est formidable.
Et ça, on s'est éclaté. De toute façon, Phédo,
c'est
l'éclat total.
Mais on a l'air de dire du mal d'Alain Malet, mais c'était aussi un homme passionné.
Mais parfaitement, qui adorait le théâtre.
Qui adorait le théâtre. Il avait les défauts de ses qualités, quoi.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'était un adorable coquin. Voilà.
C'est très bien résumé.
C'était vraiment ça. Moi, je l'ai bien connu aussi. Donc, alors, mais comment tu as pu racheter le truc? C'est parce que je crois que tu es aussi un des piliers de ce qu'on appelle la synchro.
Oui.
Non, tu doubles des comédiens américains que je ne connais évidemment pas.
Hé, hey Doc, génial la DeLorean. Je suis Marty McFly dans Retour vers le futur.
Ah, d'accord. Je ne sais même pas si j'ai vu ça, mais...
C'est il y a 40 ans.
Ah oui.
Et j'ai un fan club que tu n'imagines même pas, Jean-Luc.
Voilà.
Tu peux pas savoir. Tous les jours, on me demande un petit message pour mon mari, un petit message pour ma femme, un petit message pour mon fils, avec la voix de Marty McFly, de Michael J. Fox. Et puis, je suis Roger Rabbit, donc il veut la peau de Roger Rabbit.
Ah oui, très bien.
Et puis, je suis, ça tu dois mieux connaître, je suis la voix de Mozart dans Amadeus, le film de Milos Forman.
Je connais un peu mieux, oui.
Tu sais, le fameux rire.
Oui, oui.
Voilà, et donc j'ai un passé de 20 ans de doublage où j'ai fait du doublage jour et nuit. J'étais doué pour ça. Et puis j'ai fait le choix en 97. J'avais un très très bon salaire mensuel, même si j'étais qu'intermittent du spectacle. Mais comme je travaillais tous les jours, dimanche inclus.
La synchro, c'est ce qui rapportait le plus.
C'est ça.
À une certaine époque. Maintenant, ça a un peu changé. Mais...
Exactement. Donc j'ai été, entre guillemets, j'aime pas ce terme, star du doublage. Et pendant 20 ans, j'ai fait ça. Et puis au bout de 20 ans, en 97, je me suis dit, Luc, est-ce que tu a voulu faire ça. Moi, ce que moi, c'est vraiment une passion, hein, ce métier. Je suis comédien depuis l'âge de 16 ans. Je suis fils d'ouvrier. Je viens du Havre. Je me suis fait tout seul. J'ai pas fait d'école. J'ai appris sur le. Bah, j'ai appris au Café Théâtre.
Sur le tas, oui.
Voilà, j'ai appris sur le tas. Et est-ce que c'était ça que tu voulais faire quand tu étais gamin? Moi, j'ai toujours ce. Je reviens toujours à l'essentiel, au départ. Mmh. Et bah, comme souvent dans ce métier, mon ascension dans le doublage, je le dois à des rencontres.
Bien sûr.
Roger Carrel, Francis Lax, qui sont mes parrains du doublage, parce qu'ils ont repéré en moi quelqu'un de doué vocalement mmh. et quelqu'un doué pour la comédie. Et puis je change ma voix comme je veux. Donc ça, c'est super important dans ce métier. Donc je me suis dit, voilà, bah, j'ai fait le tour. J'ai fait des rôles extraordinaires. J'ai fait des rôles que je ne jouerai jamais sur un plateau. Un lapin, je crois que je ne jouerai pas un lapin sur un plateau de théâtre. Donc, et j'en ai fait plein d'autres, des rôles. Donc, je me suis dit, il est temps de faire autre chose. Et je suis à peu près persuadé que si je n'avais pas à décider par moi-même d'arrêter le doublage, je ne serais pas aujourd'hui directeur de théâtre.
Mais tu l'as arrêté complètement ou parce qu'il n'y a pas des personnages qui ont, alors, qui ont une continuité. Oui, parce oui. que c'est Michael G. Fox qui est pour moi un mystère total, je l'avoue.
Mais c'est tout à fait compréhensible. Écoute.
Alors, c'est quoi ce Michael?
Michael G. Fox, c'est une.
Là, je suis.
On va dire que c'est. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est les articles. Hein. Ce sont des rôles hyper importants dans la pop culture. C'est 80-90. Ce sont des films qui ont laissé ces trois films. Hein. C'est une trilogie.
C'est quoi alors? C'est les.
C'est sur le temps.
Ah, c'est Retour dans le futur, c'est ça.
Retour vers le futur. Oui. Voilà, c'est ça. Back to the future.
Et donc, s'il y a un autre qui se fait.
Parce qu'ils sont intelligents.
Ils font mourir.
C'est Robert Zemeckis.
Ils font mourir les personnages.
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont intelligents. Ils ont fait une trilogie. Ils en feront pas quatre.
Oui.
Tous les fans veulent qu'il y ait un quatrième. Il n'y aura jamais un quatrième. Mmh. Bob Gale, qui est le co-auteur du scénario, qui est un homme extrêmement intelligent que j'ai pu rencontrer, est très clair là-dessus. De son vivant, en tout cas, il n'y aura jamais un quatrième.
Bah, tu dis ça, mais il va peut-être y avoir des suicides là, à l'antenne. Là, faut faire attention de ces propos
éviter,
là.
Ce serait mieux.
Déjà qu'on a parlé tout à l'heure d'Alain Mallet. Maintenant, ça va faire beaucoup.
Et si tu veux, ce film a marqué des générations et des générations. On vient de fêter les 40 ans de la trilogie. Au mois d'octobre dernier, nous avons fait trois complets au Grand Rex. Donc, tu as en face de toi une star qui, quand il rentre sur le plateau du Grand Rex...
Ça ne se voit pas, mais...
Tu vois,
je pine.
Et ben, tu vois, et
c'est pour ça qu'on a filmé. Je ne sais pas si on a filmé, mais...
Tu vois, quand je rentre sur le plateau du Grand Rex, j'entends mon prénom hurler. Ah. Alors, ce n'est pas Patrick, mais c'est Luc.
J'espère que tu n'auras pas l'avenir de Patrick.
Écoute, je ne pense pas. Donc, si tu veux, voilà, c'est un phénomène que je ne maîtrise absolument pas. Au début, qui me faisait rire parce que on m'a proposé plein de choses. Venez faire des conventions, tu sais, tu vas signer, tu vas rencontrer des gens et tout. J'ai dit, mais je n'intéresse personne. Je ne suis qu'une voix, je ne suis pas Michael G. Fox, je ne suis pas Marty McFly. Et en fait, eh bien, j'ai dû me rendre à l'évidence que nous représentions, surtout depuis les réseaux sociaux, les voix françaises représentent énormément pour les gens. Et j'ai appris à accepter ça. Et j'étais bête. Et pendant des années, j'ai refusé complètement. Aujourd'hui, je fais quelques conventions. J'en fais pas énormément parce que j'ai quand même beaucoup d'activités et beaucoup d'autres choses à faire. Mais j'en fais de temps en temps. Et de rencontrer des gens... Alors, je rencontre des gens qui, quand je faisais mes émissions sur France 2, Anna Barbera, Ding Dong, m'ont connu, mais maintenant, ils ont 40 ans. Alors, ils viennent, ils me disent, monsieur, vous avez bercé mon enfance. Alors, quand c'est un rugbyman, ça me fait assez rigoler parce que je m'imagine avec eux dans les bras, en train de les bercer. Et ils viennent surtout avec leurs filles, leurs fils, qui sont comme des fous, alors que ces gamins n'étaient même pas en projet quand on a doublé ce film. Enfin, c'est devenu la voix, les voix françaises sont devenues dans le public des références extrêmement importantes. Et je crois que nous sommes un des seuls pays au monde où la version française, alors évidemment, où la version de la langue maternelle est devenue...
presque meilleur, tu veux dire, que l'original.
Totalement. Alors, il y a certainement plusieurs raisons à ça. J'ai fait pas mal de films avec des superviseurs américains qui venaient superviser va comprendre pourquoi, alors qu'il ne parle pas un mot de notre langue, venait superviser les versions européennes. Et moi, j'ai souvent discuté avec eux, me disant, eux, quand ils venaient pour faire la version d'un blockbuster américain, ils venaient en Allemagne, ils venaient en Italie, en Espagne, en France, ils faisaient absolument toutes les versions. Et ils nous disaient, les meilleurs, les meilleures voix et les meilleurs comédiens de doublage sont français. En France, vous avez une technique et vous avez une palette de comédiens capables d'assumer des rôles importants qu'il n'y a nulle part ailleurs au monde. Et je pense que c'est dû à une invention française, c'est la bande Rythmo. Cette fameuse bande que maintenant tout le monde connaît parce qu'on l'a vu à la télévision, cette bande qui passe sous l'image sur laquelle est écrit notre texte en français, synchrone, avec une barre verticale. Et quand la phrase arrive sur cette barre, il faut avoir commencé à parler. Et quand la phrase est passée, il faut avoir fini de parler, ce qui nous permet d'être synchrone avec notre personnage. Eh bien ça, c'est une invention française qui date de l'avènement du parlant. Quand, dans les premières versions françaises, on travaillait, moi c'est les anciens qui m'a raconté ça, on travaillait à l'image, et c'est pour ça que les versions françaises de tous les westerns, c'est l'époque des westerns, c'est très haché. Mais t'as vu que la diligence est passée. Parce que, évidemment, mes pauvres prédécesseurs, ils avaient, on leur faisait, moi j'ai, on m'a raconté, les vieux m'ont raconté ça, je te parle d'il y a 30 ans quand j'ai démarré, on leur apportait par coursier, à l'époque il n'y avait même pas internet et il y avait pas d'autres moyens, on leur apportait un texte comme une pièce de théâtre, ils l'apprenaient par cœur,
oh là là.
Ils apprenaient par cœur la traduction du film, la version française. On les mettait dans un studio de cinéma comme aujourd'hui pour faire une version française. On les mettait à la barre avec un micro devant eux et on leur passait un petit morceau du film, ce qu'on a appelé après la boucle. On leur passait le morceau du film et ils l'avaient appris par cœur. Ils écoutaient bien leur personnage et à un moment donné, quand la scène était passée plusieurs fois, on leur demandait s'ils étaient prêts. L'ingénieur du son mettait son casque. On lançait l'enregistrement et c'était sur des disques de cire qui coûtaient une fortune. Il n'y avait pas de bande à l'époque, c'était des disques. Et donc, il fallait faire aller deux prises maximum. Donc, pour être synchrone et pour se rattraper, quand ils voyaient qu'ils allaient être trop courts, c'est-à-dire qu'ils avaient parlé trop vite, ben ils rajoutaient des choses derrière. Donc ils faisaient « Mais t'as vu que la diligence est passée hein ?» Ah ouais.
Oui, d'accord.
Voilà, et c'est pour ça que souvent, on a été moqués. Alors je parle de ça quand j'ai démarré. J'ai 63 ans aujourd'hui, j'avais 18 ans quand j'ai démarré le doublage. Donc c'est pour vous dire que c'est pas hier. Moi, quand j'ai démarré le doublage, mon agent, parce que j'ai toujours fait du théâtre, je faisais du doublage dans l'après-midi et du théâtre le soir, mon agent me disait « Luc, surtout, tu ne dis pas que tu fais du doublage. Nous étions les pestiférés du métier.
Bah, » oui.
Parce qu'on faisait du doublage, on était des nuls, on était des mauvais, on était des ringards. Alors à 18 ans, être ringard, c'est un peu chiant. C'est mal démarré dans le métier. Donc, mon agent m'avait donné ordre dans les castings que j'allais faire pour le cinéma, pour le théâtre et tout. Tu ne fais pas de doublage. Aujourd'hui...
Ah ben, tout le monde se bat pour ça.
Voilà, mais c'est un truc de fou.
Ouais, je sais, tout le monde se bat.
Et ça, je crois vraiment que c'est grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Parce que les spectateurs ont pu vraiment s'exprimer. Et le métier a aussi évolué. Souviens-toi, l'époque... pas si lointaine, il y a 20-25 ans, alors des gens de notre âge peuvent en parler, ça ne nous apparaît pas si lointain, nous, bien sûr.
Non, non, non.
mais il y a 20-25 ans, les gens de cinéma ne faisaient pas de télévision.
Bien sûr.
S'ils faisaient une série bien télé, sûr. Ils étaient morts. Ça voulait dire qu'ils ne réussissaient plus au cinéma.
Et la honte, c'était la publicité.
Voilà, et la publicité, c'est la honte. Donc, aujourd'hui, cite-moi un acteur ou une actrice de cinéma qui ne fait pas de la télévision, une série ou une publicité.
Et qui est très fier de faire de la publicité.
Chalamet vient d'être remplacé, mais il a été pendant une égérie de parfums ça fait 6-7 ans qu'il est une égérie de parfums. Et les stars font tous de la pub.
Enfin, en tout cas, mes illusions sont tombées parce que moi, je pensais que si on était si bon dans le doublage, c'est parce qu'il n'y avait quasiment que des comédiens de théâtre. Alors, là, ce n'est pas le cas.
Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens de théâtre qui font du doublage. Le métier, depuis que moi, j'ai commencé, en 40 ans, le métier s'est énormément démocratisé. Oui, il est vrai que c'était une caste. Quand moi, je suis rentré dans le doublage, il n'y avait pas de jeunes. J'ai dû être un des premiers jeunes à être distribué sur des rôles de mon âge. Et c'est certainement ce qui fait que j'ai fait autant de rôles importants. Car à cette époque-là, des gens de mon âge, allez, il y en avait 5 ou 6.
Oui.
Donc, ils tournaient toujours avec les mêmes. Et je suis arrivé là-dedans, j'étais doué. J'ai fait Karate Kid, mon premier film, c'était Karate Kid, Ralph Macchio. Tout de suite derrière, j'ai fait Tom Hulce dans Mozart, dans Amadeus. Tout de suite derrière, en 85, j'ai fait donc Michael J. Fox dans Retour vers le futur. J'ai enchaîné en 87 par Roger Rabbit. Entre-temps, j'ai fait énormément de séries télévisées. J'ai même été dans La Petite Maison dans la Prairie. Je faisais Albert dans La Petite Maison dans la Prairie.
Alors là, tu vas encore...
Tu vois, et aujourd'hui, tu peux pas savoir. Bon, j'ai beaucoup de followers sur Instagram et sur Facebook, chose que tu ne connais pas puisque tu n'as pas de téléphone portable.
Non.
Tu me fais rire. Et moi, tu vois, je me suis quand même mis un tout petit peu à la page.
Ben, je vois, il est à tes côtés. Tant qu'il ne sonnera pas pendant l'émission.
Ah non, il est éteint. Il est éteint.
Mais il y a des gens formidables qui font du doublage. Des gens, moi, par exemple, je suis très ami avec des gens comme Gabriel Ledoz. Comme
Michel Papineski. Il est formidable. Gabriel et Michel, c'est des piliers du doublage.
Et donc, ce sont des gens qui, en plus, mettaient tout leur argent pour faire du théâtre, des spectacles.
Nous en revenons à ta question de départ. Ouais. Si j'ai pu acheter le Théâtre Edgar... Alors, voilà, le Théâtre Edgar appartient encore à ma banque, je te rassure.
Oui, ben j'imagine.
Il appartient encore à ma banque. Mais j'ai pu payer toutes les traites.
Grâce à ça.
Et c'est grâce à ça, bien sûr. Et donc... Ta question, parce que je n'ai pas répondu directement, ta question, est-ce que je continue à faire du doublage ? Extrêmement rarement. Pourquoi ? Parce que Michael J. Fox est très malade. Il a la maladie de Parkinson depuis l'âge de 27 ans, ce qui est extrêmement rare. Il a d'ailleurs contribué à améliorer les diagnostics et les médicaments, puisqu'il a sa fondation a rapporté des millions et des centaines de millions de dollars aux États-Unis. Il a la fondation Michael J. Fox
pour lutter contre la maladie de Parkinson.
Il est extrêmement actif. Je viens de le doubler dans une série assez marrante portée par Indiana Jones qui s'appelle Shriek. Qui est diffusé sur le câble et il a quelques scènes, donc là je l'ai doublé. J'ai été sur
Tu gardes quand même,
je continue,
tu gardes sa voix, enfin en fait c'est
voilà j'ai tout,
parce que c'est vrai que pour les spectateurs c'est très troublant de voir un comédien puis tout à coup il a changé de voix.
C'est insupportable et d'ailleurs il s'exprime sur les réseaux sociaux quand ça arrive en disant mais c'est un scandale. Et ça n'existait pas quand nous on faisait du doublage. Moi, j'ai eu la chance de faire des guest stars dans des séries comme j'allais dire amicalement vôtre. Non, je ne suis quand même pas de cette époque-là. Moi, j'adorais cette série. Mais Starsky et Hutch, Francis Lax, mais c'était ce qu'ils arrivaient à faire sur ces séries américaines, surtout qu'on était beaucoup moins fliqués à cette époque-là, et on pouvait rajouter des gags. Et Francis, il avait une réplique drôle à la seconde, il modifiait complètement le texte. Ils étaient tellement habiles avec cette fameuse bande rythmo qu'à partir du... Le texte n'était qu'un guide d'aveugle. Il changeait absolument tout. Il rajoutait des répliques.
Formidable.
C'était extraordinaire. Moi, j'ai appris avec ces gens-là, et ces gens-là étaient des gens... remarquables. Ils avaient une maîtrise et ces gens-là étaient à l'époque mal aimés alors qu'ils ont apporté énormément. Et ce que je trouve extraordinaire dans tout ce que je lis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de gens qui écrivent sur eux qui ne les ont pas connus et qui n'étaient peut-être même pas nés quand ils étaient en activité, c'est de reconnaître ces
talents-là.
Ce talent, c'est un vrai talent.
Bien sûr, bien sûr. Alors, quel est pour toi, parce que c'est un vrai problème, on a débuté l'émission en parlant un petit peu du drame de l'IA, mais aujourd'hui, la synchro, c'est mort.
Parce qu'on
peut imiter n'importe quelle voix.
Je partage complètement ton avis sur le théâtre.
Oui, parce que...
Le théâtre existe depuis l'Antiquité. Nous sommes toujours sur des plateaux à transpirer sang et eau. hein, à essayer d'exercer notre art le mieux possible. Moi qui fais rire, j'essaie de faire rire tous les soirs quand je suis sur un plateau. Je joue ma vie. Moi, à chaque fois que je rentre sur un plateau, je joue ma vie.
Bien sûr.
Il faut que je sois vivant une heure et demie après, quand je quitte le plateau. Moi, c'est ça dans ma tête. C'est je joue ma vie. Bon, je ne suis pas le seul. Donc, c'est ce que nous aimons. C'est cette adrénaline. Tout peut arriver.
Ben oui.
On peut oublier, ça m'arrive. On peut oublier une réplique. Il faut se débrouiller. Il faut aller à la rescousse de notre camarade qui a oublié une réplique,
ben
qu'il
oui.
n'a jamais oublié depuis qu'on joue la pièce. Mais ce soir-là, hop, et je vois un blanc dans son regard et je me dis, oula, on est mal. Voilà. Mais c'est ce que j'aime et c'est ce que les gens aiment.
Ben bien sûr.
Ils aiment les jeux du cirque. Ils viennent nous voir et puis démerdez-vous, les gars.
Bien sûr.
Ça n'a pas de prix. Et je pense, comme toi, que l'IA n'atteindra jamais notre métier. Je suis peut-être un grand optimiste, je suis un grand optimiste par nature, mais je suis sûr, moi personnellement, j'en suis persuadé. Eh bien, je vais te dire, contrairement à beaucoup de mes camarades du doublage, je vais être aussi optimiste pour le doublage.
Ah bon ?
C'est-à-dire que oui, on va perdre des choses. Exemple, on va perdre, tu sais, tu as dû voir ça... De temps en temps, sur les chaînes animalières.
Je ne regarde pas déjà par les feuilletons américains, alors regarder un petit lion manger
écoute,
un petit mouton ne n'est pas...
Écoute, c'est sympa. T'apprends sur
je
la
Je ne regarde
vie.
Pas non plus les plantes vertes, je le dis tout de suite. Hein, bon.
T'apprends sur la nature. Alors, le gnou se déplace en troupeau. Alors, tu vois, ça, prendre Gabriel Ledoz, puisque tu en parlais,
oui.
qui est une grande voix du doublage, pour dire le gnou se déplace en troupeau, ben, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, je pense que l'IA va remplacer ce qu'on appelle le voice-over, c'est-à-dire la voix française en surimpression sur un éminent professeur d'ornithologie qui va raconter la vie sexuelle des perroquets.
Oui.
On va dire, le perroquet approche bon. De la perroquette. Enfin bon, ça, je pense qu'en effet, ça risque d'être perdu pour les...
Ce qui est un véritable drame.
Voilà.
Hein,
tu vois, tu parles pour les perroquets.
Oui, bien
voilà,
sûr. Donc, évidemment.
Voilà. Donc, si tu veux, oui, il y a des choses qui nous échapperont. Mais je reste persuadé que pour les gros films, les films américains, pour les séries américaines, quand, il y en a des bien faites, tu sais. Moi, je ne regarde plus que ça à la télévision. Je ne regarde plus aucun journal télévisé. J'écoute la radio si je veux m'informer. Je ne regarde plus les BFM, les trucs. C'est épouvantable. C'est la fin du monde toutes les deux secondes. Alors, la semaine dernière, c'était sur l'Iran. Alors là, maintenant, c'est la canicule. Enfin, c'est un truc de fou. En plus, tous les sujets sont les mêmes. Tu zappes d'une chaîne à l'autre, ils disent la même chose. Enfin, bon, bref. Donc, moi, je regarde. Il y a des très belles séries qui sont très bien faites du monde entier. Il y a des séries suédoises extraordinaires. Moi, je regarde beaucoup de choses. J'entends mes camarades, je les regarde en version française. J'entends souvent mes camarades, j'entends des très mauvaises versions françaises, mais j'en entends des très bonnes. Et je pense qu'on aura du mal. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses en IA. C'est une machine qui te parle. Et c'est pas possible. Tu vas pas passer une heure et demie à vivre l'aventure de quelqu'un qui est amoureux, qui vit une rupture, qui perd quelqu'un de proche, qui pleure, qui rit, alors que tu sens que c'est une machine qui parle.
Mais tu ne crois pas que l'IA aussi va faire des progrès
L'IA
considérables,
va faire forcément,
hein, c'est ça le problème.
Va faire forcément des progrès, mais je crois en l'âme.
Ah oui.
Et je crois à l'âme. Mmh. Et je crois que il y aura jamais le tu sais ce qu'on appelle souvent dans notre métier le supplément d'âme pour les gens très talentueux. Eh bien, je pense, peut-être suis-je totalement naïf, mais tant mieux si je le suis. Je pense qu'on n'arrivera jamais à apporter l'émotion avec une machine.
Ah oui.
Peut-être que je me trompe.
Oui. Mais c'est pareil pour les littératures. Tu sais, il y a une pièce qui vient d'être jouée là, à Versailles, uniquement écrite par l'IA à partir de tous les textes de Molière. Oui. Bon, tu connais ça.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien
et
sûr.
Il paraît que c'est pas mal, que c'est très bien.
C'est très bien. Alors moi, je m'y suis intéressé.
Je ne l'ai pas vu. Hein, donc...
Non, moi non plus. Mais je m'y suis intéressé. Il y a eu un très, très joli décor de fait. Enfin, bref. C'est la Sorbonne qui a l'instigation de ça. Oui. C'est Molière 2.0. Mm-hmm. Et ils ont en fait...
Ils ont pris
toutes les pièces répertoire de Molière. Ils ont demandé à l'IA d'écrire une nouvelle pièce de cet auteur.
Voilà.
Bon. Eh bien, écoute, tu t'aperçois, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler parce que je m'y suis intéressé. J'ai entendu dire par les gens qui l'ont vu et qui sont des gens que j'apprécie, que je connais bien, ben, on reconnaît un peu du malade imaginaire, on reconnaît un peu du bourgeois gentilhomme, on reconnaît... Forcément.
Ben oui.
Forcément. L'IA...
Ah ben, ils prennent un peu, bien sûr.
L'IA se nourrit de tout.
C'est des voleurs, c'est tout. C'est,
bon,
c'est
un... est-ce que tu as déjà eu... la curiosité, mais je sais que tu es très occupé, de poser des questions à ChatGPT sur un sujet que tu connais parfaitement.
Bah, c'est-à-dire qu'on l'a fait pour moi.
Voilà.
On l'a fait sur moi.
Alors
bon, il paraît que j'avais monté Port-Royal de Corneille. D'après l'IA, tu vois.
Donc, tu as ta réponse. Non, là, alors, l'IA, oui, tu as raison, va faire des progrès. C'est indéniable, elle a fait des progrès tous les jours.
Une fois que je leur ai dit qu'ils se sont trompés et que c'est de Monterland, tu vois, c'est...
Bah oui, voilà. Donc, si tu veux, moi, je pense que l'IA va rendre d'énormes services.
Et notamment sur le plan de la médecine.
Bien sûr, sur plein de choses, mais qu'on va en revenir sur plein d'autres. Maintenant, on est dans cette folie, comme toujours, l'être humain s'enflamme pour quelque chose, et puis les choses vont retomber.
Bien sûr. Non, mais le problème, c'est plutôt la vie qui est déjà extrêmement difficile des comédiens, qui vivent beaucoup par la synchro, qui vivent beaucoup tous les métiers qui sont à côté, et par le cinéma, la synchro. Et si tout ça disparaît, ou en tout cas, ça me nuise beaucoup, comment... Déjà que c'est très dur, ça va devenir de plus en plus dur.
C'est extrêmement difficile. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des mails ou qui viennent me voir au théâtre et qui rêvent de faire ce métier. Ce que je comprends, moi, j'ai rêvé de le faire. Et puis, j'ai réalisé mon rêve. C'était une autre époque, mais bon, à mon époque, il y avait d'autres problèmes.
Hein. Ah oui, bien entendu.
Il y avait le chômage à 200%. Les jeunes n'avaient pas de boulot. Enfin, ça a toujours existé. Et je leur dis, il faut que tu aies ça au creux de ton ventre. Faire ce métier, il faut... Moi, je n'avais pas le choix. Je ne me suis pas donné le choix de faire autre chose. C'était ce que je voulais faire au plus profond de moi. Et je pense que si je le fais toujours aujourd'hui, 40 ans après, eh bien, c'est parce que j'ai... Tu sais, c'est comme un curé. Il a ça en lui. Et c'est la passion. Alors, moi, ce n'est pas la passion du Christ, c'est la passion du théâtre.
Moi, j'ai les deux, alors tu vois.
Tu vois ?
Donc, ça va.
Voilà. Mais c'est ça. C'est un truc qui est ancré en toi. Et je dis toujours à ces jeunes qui viennent me voir, je dis, est-ce que tu as le choix ? Est-ce que c'est ce que tu veux faire ? Ce que tu as envie de faire ? Ou c'est ce que tu dois faire ?
On est coincé par le talent qu'on a. C'est vrai. Hein.
Je ne sais pas si on est coincé.
Ben, on est coincé quand on est un peu paresseux. Quand on est...
Ah,
il
ne faut pas être paresseux pour faire ce métier.
Et qu'on sait qu'on va mourir, ben, on est obligé de le faire.
Alors, tu dis une chose très importante. Je dis souvent ça. Mes enfants détestent que je dise ça. Parce que je le dis fréquemment. J'ai une chance inouïe dans ma vie, c'est que je sais que je vais mourir.
Ben oui.
Et si j'ai fait autant de choses dans ma vie, c'est que je sais que ça peut s'arrêter
demain,
là, maintenant.
Bien sûr.
Et ça, c'est...
Comme c'est du différé, l'émission passera. Là, on est tranquille. Hein. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Tu es très pratique, quand même. Hein.
Ah oui, c'est bien connu. Je suis connu pour ça. Pratique.
Et si tu veux, ça, c'est un avantage énorme dans la vie.
Bien sûr. Mais c'est évident. Faut que...
De penser qu'on va mourir.
Il faut se lever chaque matin en sachant que le soir, on peut mourir.
C'est ça. Et c'est pour ça que je me lève en pleine forme.
C'est pour ça qu'on fait
plein de choses. Et que quand tu me dis ça va toujours, moi. Je suis vivant, je vais bien.
On a fait le lien avec le théâtre maintenant, donc c'est peut-être important un petit peu de parler de la programmation et de ce qui se passe dans ce très joli petit théâtre. Hein, parce qu'il faut inciter aussi les gens à aller voir des choses d'une manière extrêmement concrète.
Je serais ravi de les accueillir.
Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment au théâtre
Edgar ? Au théâtre Edgar, il y a toujours...
À partir du 7 août. Voilà.
Eh ben, il y a actuellement quatre comédies, comme toujours au théâtre Edgar.
Parce qu'il faut bien expliquer, tu as deux horaires.
Hein. Voilà.
Alors, avec quelquefois un changement d'horaire qui est amusant, c'est là que tu fais du 19h et 21h, et la semaine d'après, c'est 21h, 19h.
C'est ça, exactement.
Explique un peu tout
j'explique.
Ça.
J'explique parce qu'on s'est aperçu que les habitudes des spectateurs ont changé. Tu te souviens,
oui,
le rôle. Enfin, l'horaire important au théâtre, c'était le 21h.
Voilà.
Eh bien, aujourd'hui, c'est fini, c'est le 19h.
Ouais.
Les gens ne veulent plus sortir trop tard. C'est vrai que, de toute façon, s'ils habitent en banlieue, ils ont du mal à rentrer chez eux, puisque le RER est toujours en panne. Donc, non, mais c'est vrai. Et puis, on a des problèmes pour se garer dans Paris. Et puis, bref. Donc, sauf si au théâtre Edgar, on a de la chance, comme on est à côté de la gare Montparnasse, on a 4 solutions de parking, donc il n'y a jamais de problème de parking pour quand on vient au théâtre.
Ça, c'est dit.
Ça, c'est dit. Donc, si tu veux, on a, depuis 2 ans, instauré un système. Alors, au départ, les comédiens sont un peu dubitatifs. Ils comprennent très vite que c'est formidable, et pour les spectateurs et pour eux. Ils jouent 4 représentations par semaine, mais c'est jamais aux mêmes horaires et c'est jamais les mêmes jours. Ce qui permet au public... qui, des fois, moi, je connais des gens, ils sortent tous les mardis soirs.
Mmh.
Bon. Eh bien, ils attendront le mardi où on joue la pièce qu'ils veulent voir.
À 19h.
Mais sur un mois,
d'accord.
La pièce qu'ils veulent voir jouera un mardi à 19h.
Très bien.
Voilà. C'est ça, le système. Et c'est pas compliqué. Ça peut paraître compliqué comme ça quand on l'explique. Mais non, puisqu'aujourd'hui, plus personne ne vient acheter sa place au théâtre. C'est même pas s'il y a 1% de places vendues à la caisse, alors que c'était l'inverse il y a 10 ans.
Bien sûr.
Ils achètent sur tous les sites de revente de billetterie. Et donc, ils ont le jour, l'heure, et ils ne peuvent pas se tromper.
Et c'est pour ça qu'on arrive à une absurdité dont je parle souvent, qui sont que les théâtres privés coûtent moins cher que les théâtres publics. Parce que les théâtres publics ne peuvent pas passer par Villers Éduc et par toutes ces...
Mais voilà. Bien sûr.
Et donc on arrive à des... Alors qu'on paie des impôts pour le théâtre public.
Le subventionné.
Subventionné. Oui. Et là, finalement, alors qu'au théâtre privé, maintenant, on peut avoir des places pour, je ne sais pas, 10, 15 euros.
Tu fais bien d'en parler. Moi, je suis théâtre privé. Je suis très fier de faire partie des théâtres privés.
Tu fais partie du fonds de soutien ?
Ouais, j'ai le fonds de soutien.
D'accord. Et ils t'ont pas embêté là-dessus ?
Non, ça me permet de monter. Tu vois, je te parlais de Fedo, 8 comédiens sur le plateau.
Comme... Oui, ça a permis ça. D'accord.
Bah, ça m'a permis de monter des pièces que je n'aurais jamais pu monter dans un lieu qui contient 132 places. Donc, si tu veux, ça, c'est vachement bien. Et donc, le théâtre privé me permet de faire le fameux... tarif pour les moins de 26 ans à 10 euros.
Mmh.
Hier soir, j'étais dans mon théâtre et j'ai fait l'entrée. Moi, quand je suis au théâtre, je fais l'entrée et la sortie, je parle aux gens.
Je fais pareil.
Comme toi.
Voilà.
Donc, on est connus parce que les gens nous disent « Ah, on a le droit au directeur et tout ça. » Parce que je ne joue pas toujours dans mon théâtre. Donc, il y a des fois, j'y suis uniquement en tant que directeur. Et hier soir, j'avais une maman, un papa, un grand-père et leurs 2 petits-enfants et enfants, entre 16 et 19 ans, les 2 garçons, ils avaient des pépites dans les yeux. Ils avaient vu la photo de mon pote, qui se joue actuellement au Théâtre Edgar et qui se termine fin septembre. Je vous engage à y aller, c'est extrêmement bien écrit.
Oui, je l'ai vu. Oui,
ah, vous l'avez vu. Tu l'as vu.
Oui,
c'est vrai. Et donc, ces gamins-là, c'est la première fois qu'ils allaient au théâtre. Ça m'a fait ma soirée. Oui. Moi, j'ai passé une merveilleuse soirée. Je les ai remerciés. J'ai remercié la maman. Et les gamins, ils s'imaginaient pas que le théâtre, ça pouvait être ça.
Oui.
Parce que malheureusement, comme nous, quand on était à l'école, on a été voir quand même des trucs hyper barbants au théâtre.
Bah oui, c'est sûr.
Tu vois ? Et le problème, c'est qu'ils ont souvent... Les jeunes, une image barbante, alors que le théâtre, on peut s'amuser, on peut voir des choses marrantes du moment, avec des sujets du moment. Et puis, on peut aussi aller voir des choses classiques parce qu'on s'aperçoit que les sentiments sont éternels et que l'amour, c'est l'amour et que la tromperie, c'est la tromperie. Et que voilà. Et en fait, quand c'est bien monté, quand c'est bien joué, quand c'est pas prétentieux, et tu sais très bien de quoi je parle.
Bien sûr.
Quand on y met nos tripes, les gens, ils réagissent avec leur émotion, ils réagissent avec leur cœur et ils adhèrent à ce qu'on fait.
Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup. Moi, j'ai une fille qui ne veut plus aller au théâtre quasiment, parce que je l'ai tellement emmenée.
Mais tu
quand
l'as emmenée dans
petite,
des trucs peut-être un petit peu indigestes.
Elle s'est trop ennuyée. Donc quand le théâtre est ennuyeux, il est vraiment ennuyeux. Quoi.
Bah, le problème du théâtre ennuyeux, moi, tu sais, je...
Et c'est pas un problème de thème, hein, parce qu'on peut faire...
Non, il y a des comédies.
Moi, je veux voir des comédies, mais des comédies où je m'ennuie à crever, et puis des tragédies où je suis passionné. Donc ça n'a rien à voir.
C'est vraiment une manière de le monter.
Voilà, exactement. C'est pas un problème de forme.
Non, du tout. Et si tu veux, moi, je fais vachement attention parce que je suis directeur de théâtre, puis j'ai des responsabilités au sein des théâtres privés. Donc, si tu veux, je peux pas m'en aller au théâtre. Puis, moi, j'ai trop de respect des comédiens sur le plateau. Et c'est vrai que quand tu t'ennuies, rester 1h40... assis en général, très mal assis, hein, y compris dans mon théâtre, on n'est pas toujours très bien assis au théâtre, mais c'est comme ça. Et si tu veux rester 1h40 à te dire mais qu'est-ce que je fais là, mais j'aurais jamais dû accepter l'invitation.
Surtout quand on s'en aperçoit déjà au bout de 3 minutes.
Ah bah, au bout de 3 minutes,
on sait qu'on va crever.
Ça y est, je me suis fait avoir.
C'est absolument terrible.
Voilà, et donc moi j'ai une femme qui adore le théâtre, qui maintenant fait très très attention quand je lui dis « Ah, on est invité à tel endroit ». Elle va tout de suite regarder le sujet. Ce que c'est. Et des fois, elle me dit « Ah non, alors ça, t'y vas tout seul. » Donc, je sais ce que tu as vécu avec ta fille.
Oui, c'est surtout ma fille qui l'a vécu. Parce que moi, j'aime tellement le théâtre que même dans les mauvais spectacles, il y a quelquefois quelque chose de touchant.
Tu vois un bon acteur, une bonne actrice.
Un truc, il y a toujours quelque chose d'assez...
Oui, et puis tu as le côté professionnel. Donc, tu dis... voilà,
et puis quelquefois, les spectacles ratés sont plus intéressants que les spectacles réussis aussi. Mais c'est vrai, parce qu'il y a de l'humanité qui passe. C'est ça, le théâtre, c'est l'humain. Quoi. Donc,
bien sûr.
Et une
c'est
fragilité,
le cœur.
Même un comédien maladroit ou une chose comme ça, ça devient plus intéressant que ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire des spectacles bien faits, mais parfaitement médiocres. Quoi.
On est bien d'accord.
C'est tout le temps.
Alors moi,
je
fais de la comédie, comme tu le sais. J'essaie toujours d'abord, parce que tu sais que le théâtre, c'est un texte.
Bien sûr.
C'est la première chose. Moi, je lis beaucoup de pièces. On m'envoie beaucoup de pièces. J'essaie de les lire. Je dis bien j'essaie, parce qu'il y en a certaines. Je me dis non, c'est pas pour moi. J'essaie aussi d'être honnête.
Je disais le mois dernier que les directeurs d'État ne lisaient plus les pièces de théâtre. Donc...
pas toutes, mais vraiment j'essaie de lire. Évidemment, sur le lot, j'en retiens, je ne sais pas si j'en retiens 10%, hein, j'en retiens 5%.
C'est énorme déjà.
Voilà, et puis après, il faut trouver une distribution.
C'est Lavelli, quand il était directeur du Théâtre de la Colline, qui me disait... Moi, ce que je lui demandais, mais comment vous sélectionnez vos pièces? Alors, il me dit, j'ai un comité de lecture. Alors, je dis, c'est formidable.
Oh là là.
Alors, je lui dis, mais alors, vous avez, combien il y a eu de pièces qui sont venues du comité de lecture? Il réfléchit un peu, il me dit, zéro.
Bah oui, le comité de lecture, c'est moi, avec moi-même.
Bah bien sûr, c'est
et
le
en
seul.
Général, quand j'aime bien une pièce, je la fais lire à des gens que j'apprécie ou j'ai pensé à un comédien. Parce que moi, quand je lis une pièce, comme je suis vraiment
on pense à un comédien,
metteur en scène, et j'adore la mise en scène parce qu'on apprend énormément des acteurs. Et quand moi, j'ai la chance de pouvoir visualiser la pièce en la lisant. Je ne sais pas si ça te fait ça.
Moi, ça fait pareil.
Moi, je vois les comédiens rentrer. Et puis, petit à petit, le visage du personnage...
Prends le visage d'un comédien.
Est incarné d'un comédien que je connais. Ouais. Alors, souvent, j'appelle ce premier comédien auquel j'ai pensé. Alors, il est libre, il n'est pas libre.
Bien sûr, mais ça,
et quand il est libre, je lui dis, écoute, je t'envoie la pièce, tu me dis ce que t'en penses. Alors, les acteurs, quand on leur propose quelque chose, ils lisent très, très vite. Hein. Donc, 2 heures après, t'as un appel. Waouh, c'est génial. Alors, j'ai rarement vu un acteur à qui tu proposes une pièce te dire, non, ça ne me plaît pas du tout. Mais non.
Moi, ça m'est arrivé.
Ça t'est arrivé?
Oui, ça arrive.
Et donc, je vois s'incarner le personnage, je le fais lire autour de moi. Et je n'ai pas besoin d'être rassuré. Si j'ai apprécié le spectacle, je crois avoir un tout petit peu le sens de la comédie depuis tant d'années et j'entends surtout le public. Quand je lis une pièce, j'entends le public.
Ah oui. Il faut dire à nos auditeurs que Luc Hamet, hein, qui est toujours mon invité aujourd'hui à Radio Courtoisie, a monté 25 pièces à peu près. Hein.
Oh, j'en ai monté même plus
que ça,
ça
ouais.
Tu sais. Je n'ai pas fait le calcul.
Une trentaine.
J'en sais rien. Ouais, au moins. Et puis, il y en a dans lesquels j'ai joué, et puis il y en a beaucoup dans lesquels je n'ai pas joué.
Oui, tu as joué dans une dizaine de pièces.
Oui,
ouais.
Je ne sais pas. Je sais même pas mon... Des fois, je lis des trucs sur Internet où on m'envoie des trucs. Tu sais, c'est pas moi qui les ai écrits. sur ce que j'ai fait. Il y a des trucs, je me dis, ah bon, j'ai fait ça, moi, je me trompe. Non, oui, franchement, tu vois. Alors, ne parlons pas du doublage, hein, où il me parle de tel rôle dans telle série. Dans... Je me dis, mais ah bon, bah, certainement, s'ils l'écrivent, c'est que c'est vrai. Et donc, si tu veux...
Mais évidemment, les journalistes, dès qu'ils écrivent quelque chose, c'est vrai, c'est bien connu.
Ah bah oui, bien sûr. Surtout ce que t'écris, toi. Évidemment. Et si tu veux, voilà, donc ça commence par une pièce, un auteur, et puis on trouve une distribution, parce qu'une comédie, c'est un texte, mais c'est une excellente interprétation.
Bien sûr.
Avec des gens qui connaissent la comédie, le temps de la comédie, le rythme de la comédie. Beaucoup plus qu'ailleurs, parce que si tu n'as pas ce sens-là, c'est difficile de jouer correctement une comédie. Savoir s'il faut attendre, le fameux temps, est-ce que j'attends, est-ce que je balance ma réplique, ça a beau être du vivant, c'est de la mécanique, la comédie. Donc tout ça, et puis une fois que tu as tout cet ingrédient-là, bah, tu fais ta mise en scène. Moi, j'essaie toujours d'apporter autre chose que l'auteur et je pense qu'il est important qu'un auteur ne mette pas en scène sa pièce parce que le metteur en scène a une vision globale.
Souvent, l'auteur qui met en scène sa pièce fait du pléonasme.
Total. Okay. Et il va trop dans le sens de sa pièce. Par conséquent, c'est beaucoup moins intéressant. Et le metteur en scène va apporter des idées. Moi, souvent, j'apporte à l'auteur, mais je le respecte, donc je l'appelle. Pendant qu'on répète, ou même des fois avant de répéter, sur les premières lectures, je dis, mais je ne sais pas si tu as remarqué, tu as des auteurs, mais même dans les auteurs morts, hein, et notamment on parlait de Fedo. Alors lui était spécialiste, parce que tu sais comment il terminait les pièces, il termine, en général, l'acte 3 n'était pas fini, ou même pas commencé, la veille de la livraison de la pièce au directeur du théâtre. Tu remarqueras que la plupart des actes 3 de Fedo sont bâclés. C'est là où on voit... Son idée fulgurante, permanente, d'esprit permanent d'auteur suprême de comédie. Mais tu as souvent chez les auteurs de comédie, en tout cas, ce que je monte moi, tu as souvent des bribes d'idées extraordinaires qui sont lancées dans une scène.
Et qui ne sont pas exploitées.
T'as remarqué ça ?
Oui, oui, bien sûr.
Alors moi, c'est mon dada. Je vais tirer les fils. Et je dis aux auteurs, j'appelle les auteurs, j'ai dit, cette idée-là que tu as mis à cet endroit-là, on l'oublie jusqu'à la fin. T'as pas été au bout. Va au bout, tire le truc. Et Dieu merci, j'ai affaire en général à des auteurs intelligents.
Qui réécrivent, qui font le travail.
Mais qui me disent, Luc, mais oui, t'as raison. J'ai le droit d'avoir tort. Hein. Je peux avoir tort. Et des fois, ils me disent, non, parce que... Regarde, tel acteur, enfin tel personnage dit ça à ce moment-là. Et donc, oui, tu as raison, mais regarde, on peut, et je rebondis, on peut aménager comme ça. Donc, pour moi, le travail d'un metteur en scène, il n'est pas simplement de dire tu rentres, tu sors, tu t'assieds, tu vas prendre la tasse, tu vas la reposer dans la cuisine. Ce n'est pas ça, mettre en scène. Ça, c'est de la mise en espace.
Bien sûr.
On s'en tape. Mais
évidemment.
On s'en fout. Ce qui est important, c'est d'abord de travailler avec l'auteur. Tu as beaucoup d'auteurs qui ont du mal. Moi, je ne travaille qu'avec les auteurs qui, justement, ont envie de travailler. Et puis, après, c'est de la direction d'acteur. Et ça, c'est passionnant.
Ben oui, bien sûr.
Parce que quand tu as un super acteur, qu'il est capable de te faire bleu, rouge, jaune, vert pâle. Enfin, non, mais tu lui dis, tiens, joue-la-moi comme ça. Et que le mec, instantanément, parce que c'est son métier quand même, hein, mais il n'y en a plus beaucoup.
Oh, il y en a quand même quelques-uns.
Il y en a quand même. Hein.
Ils ne sont pas tous très connus, c'est ça le problème. Mais
bien sûr, et c'est très injuste.
Oui.
Et qui te fait ce que tu lui demandes, et puis tu travailles avec lui, puis tu dis, non, là, tu as raison, c'est trop, je te demande trop. Redescends un peu, paf, paf, on s'ajuste. Et surtout, ils mettent le curseur, ils ont 1000 curseurs, ils vont te le jouer comme ça.
Oui, il y a des comédiens qui sont des Stradivarius.
C'est
pour un metteur en scène, c'est très, très agréable.
C'est exceptionnel.
Donc, tu fais réécrire les pièces.
Ah, souvent. Très souvent.
Ouais. Moi, ça m'arrive aussi.
Et les fins, notamment. Parce que les fins, tu sens qu'ils avaient envie de la terminer. La pièce, ils l'ont portée en eux pendant un an. Et tu sens que le dernier mois est compliqué. Et je suis en train d'écrire un bouquin sur, justement, mes années doublage. Et je suis en train de vivre ça.
Ah,
et
oui.
Je le comprends. Parce que...
Mais t'as envie de finir, c'est ça que tu veux dire.
Je suis sur mes 3 derniers chapitres. Et alors, j'ai écrit en 6 mois J'ai 21 chapitres. J'ai écrit 18 chapitres ou 19 chapitres.
Alors, ça va paraître chez qui, ça?
Alors, écoute, j'ai plusieurs possibilités. Donc, je ne peux pas te dire aujourd'hui. Ça va s'appeler, ça va te faire rire, Retour vers mon futur.
Ah.
c'est à la demande générale des gens qui adorent le doublage et de la pop. Ce que je te parlais de la pop culture, c'est très... C'est très en vogue.
Ce qui m'avait passionné.
Voilà. J'ai senti.
Oui, t'as senti.
C'est pour ça que je t'en reparle. Et donc, ça va être sur toutes mes années doublage et puis surtout sur tout ce que j'ai pu faire parce qu'en dehors du théâtre, j'ai fait aussi d'autres choses. J'ai été animateur sur France 2 pendant 10 ans. J'avais une émission jeunesse où je faisais du cartoon. Enfin bon, bref. Donc, je parle de tout ça et j'ai du mal à le faire. J'arrive aux trois derniers chapitres, qui sont des périodes de ma vie plus récentes, ça m'intéresse moins. tu vois le truc?
Oui, je te comprends.
Et est-ce que c'est inconscient et que tu n'as pas envie de mettre un point final? Je ne sais pas. Je te dirai ça dans « J'espère vite », parce qu'il faut vraiment que je le finisse. C'est con.
Bah, oui.
Tu sais comment, avec les ordinateurs maintenant, j'ai fait, je crois, 57 000 mots. Donc, tu vois, un livre, c'est 60 000. Il ne me reste rien. Mais il faut que je le finisse.
Bah, demande à l'IA, c'est pour te donner un petit coup de main.
Alors, j'ai essayé.
Ah.
Alors, moi, je ne veux pas entendre parler de ça pour l'écriture. J'ai soumis à ChatGPT un chapitre.
Mmh.
Et je lui ai dit...
Poliment, j'espère.
Ah, mais toujours.
Ah bon, très,
mais tu
important.
Sais qu'il est poli, lui aussi.
Ben, il est poli si t'es poli, non?
Réécris-moi... Enfin, j'ai pas dit réécris-moi. Corrige. Orthographe, grammaire et style. Et bah, écoute, c'est très propre.
Bah oui.
Mais.
Ça pue d'âme.
Mais c'est pas ma respiration. Alors oui, de temps en temps, je fais des phrases un peu longues. Oui, je fais diversion. Oui, je vais pas à l'essentiel. Mais c'est un livre.
Oui, bien sûr.
Et bien, moi, je suis désolé. Je suis à peu près sûr, et je pourrais le demander quand j'aurai vraiment mon éditeur, parce que ça m'intéressera à ce moment-là. Je suis sûr que quand ils reçoivent des livres écrits par ChatGPT, je suis à peu près sûr qu'ils le savent.
Bah, moi, je déjeunais avec mon éditeur l'autre jour, et pour lui, c'était effrayant.
C'est évident.
Non, mais c'est effrayant. Il reçoit des manuscrits qui sont écrits par l'IA.
Bien sûr, ça se voit. Ça n'a plus d'âme.
Il a atterré, quoi.
Tu vois, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Et pour le théâtre et pour le doublage, l'IA n'a pas d'âme.
Oui, mais sauf qu'elle peut l'acquérir, c'est ça le problème.
Écoute.
Regardez tous les livres de science-fiction, les films de science-fiction sur les robots qui deviennent quasiment humains.
Tu n'es pas sans remarquer, puisque bon, tu ne connais pas, et je respecte infiniment, tu ne connais pas Retour vers le futur. Mais dans Retour vers le futur, la plupart des choses qui ont été inventées en 85 pour le film sont existent. Nous faisons des visios. Nous téléphonons en nous regardant. Mmh. C'est dans le film.
Mmh.
Un truc tout con. Tu vas te garer dans un parking Vinci à Paris. Tu as des petites lumières rouges, des petites lumières vertes.
Mmh.
Ça a été inventé dans Retour vers le futur.
Ah.
Les places prises sont rouges, les places libres sont vertes.
Ah, très bien.
Ah, mais oui. Mais c'est incroyable. Brésil, tu as vu Brésil? Brésil, c'est un film que j'ai adoré quand j'étais gamin. La plupart des choses de Brésil existent aujourd'hui. Bon, on n'a pas encore inventé la machine volante, la voiture volante. J'étais très déçu. Ils nous avaient promis, aux Jeux Olympiques de Paris, ils nous avaient promis des taxis drones, des taxis volants. On ne les a pas vus, mais c'est qu'ils existent. Ils ont été construits.
Bah, bien sûr. Bien sûr.
Voilà. Donc, si tu veux, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses.
Ça, évidemment, moi, ça me rappelle mon père qui, quand j'étais petit un jour, il revenait d'un voyage en Suède. Je devais avoir 9-10 ans. Puis il me dit, en Suède, j'ai vu un truc absolument invraisemblable. Il y avait des couleurs comme ça et il y a des voitures qui s'arrêtaient. Parce qu'il y avait un machin rouge, il y a des voitures qui s'arrêtaient. J'étais sidéré. Il me dit,
par les feux rouges,
ça n'arrivera jamais en France. On est trop libre.
Bien sûr.
Devant l'esclavage d'un truc. Maintenant.
Bon, moi, je suis né en 63. J'ai l'âge de la première et dernière fois.
Un enfant.
N'est-ce pas? L'âge de mon année de naissance, c'est cette année et plus jamais. j'ai connu, moi, les, au centre des carrefours, un petit peu comme pour les curés autrefois, pour le prêchoir, c'est ça, on disait ?
Oui.
Mais c'était un flic qui faisait la circulation disant « passez, arrêtez, arrêtez ». Moi, gamin, je l'ai vécu, ça. Il n'y avait donc pas de feu rouge. Parce qu'il y avait un flic qui était au milieu du carrefour.
Oui, bien sûr. C'est...
Mais tu racontes ça aujourd'hui, mais ils sont morts de rire.
Oui, bien sûr. Bah, oui.
Comment veux-tu qu'ils s'imaginent ? Et moi, quand je dis souvent dans mon livre, puisque je parle des années 80-90, je me dis que des gens beaucoup plus jeunes vont lire ce bouquin. Je rappelle qu'à l'époque, nous n'avions pas d'email, nous n'avions... Pas de portable. Bon, toi, tu es un irréductible gaulois.
Oui.
Mais il faut expliquer ça, parce que sinon, on dit, mais c'est quoi cette histoire ? Les essais, quand on faisait des essais sur des gros blockbusters, moi, je raconte que nos essais partaient en avion. Et on avait la réponse pour savoir si on était pris. C'est Bob Zemeckis qui m'a écouté et Bob Gale qui m'ont écouté sur les essais de Michael D. Fox de Retour vers le futur. Mais c'est parti en avion, ça a été écouté dans une salle de cinéma à Los Angeles. Et ils ont dit, on veut la voix 1, la voix 2, la voix 3. Et ils ont téléphoné au studio en France en disant, on veut Luc Hamet pour faire Michael D. Fox, pour faire Marty McFly. Mais aujourd'hui, on envoie l'essai, il est écouté dans les 5 minutes, puisqu'on l'envoie par mail.
Oui, bien sûr.
Et puis, s'il est trop lourd, eh ben, on fait un WeTransfer.
Bien sûr.
Et les coursiers, à notre époque, mais c'était un travail extraordinairement important, parce que moi, j'ai été assistant de production dans mes débuts, parce qu'il fallait bien que je vive, et je ne vivais pas de mon métier de comédien. J'ai été assistant de production à Europe 1, par exemple. J'étais dans la publicité, on faisait des publicités radio. La bande était à moitié chaude, sortie de studio. Un coursier attendait avec sa mobilette, il prenait le petit bobino que tu as connu, hein, la bande, il l'emmenait à passer à l'antenne une heure après. Mais s'il n'y avait pas le coursier, ça ne passait pas.
Bien sûr.
Mais ça n'existe plus, ça.
Non, bien sûr.
Puisque tout s'envoie par mail.
Oui, oui. Donc, on va faire une petite pause parce que Radio Courtoisie a aussi besoin de ses auditeurs pour vivre. Donc, c'est ce qu'on appelle le bobino.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent, partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Alors, je rappelle que nous sommes avec Luc Hamet, qui est le directeur du théâtre d'Edgar, comédien, producteur et puis maître... pour interpréter les comédiens américains que je ne connais pas. Je vais ici avec lui de découverte en découverte.
Et tu regardes pas les films en version française, toi ?
Si, si.
Ah
si,
bah
si,
oui,
si,
donc si, tu si, nous si, connais.
Mais oui, mais sans le savoir, ça, c'est un problème.
Tu veux que je te dise ? C'est bien. Parce que moi, qui regarde que les versions françaises, des fois, j'entends mes camarades,
oui, oui.
Si tu veux.
Non, mais le problème, en plus de ça, moi, je ne vais jamais au cinéma, mais je vois des films à la télévision. Et à la télévision...
Si
ce n'est pas en version française, c'est insupportable.
Ah, bah, de toute façon.
Avec la traduction qui bouffe la moitié de la...
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, donc ça,
et c'est pour ça aussi que la version française a ce succès-là.
Bien sûr.
C'est que si tu n'es pas totalement bilingue, tu ne rentres pas dans le film.
Bien sûr.
C'est lire en même temps qu'on regarde, c'est épouvantable. Et ça sert à ça, la version française.
Oui.
Et alors, quand elle est bien faite, tu vois, quelqu'un comme moi qui connaît absolument toutes les voix, pratiquement toutes les voix, et ce sont des amis, des gens avec qui j'ai travaillé, même si c'est pas nouveau, c'est des gens que je connais, quand ils ont bien bossé, je me fais avoir. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes de film, je ne pense plus. Du tout, parce que moi, j'ai les visages de ceux qui doublent, si tu veux. Mais je ne pense plus du tout à eux. Et quand le film se termine, si je suis devant la télé avec ma femme, on se regarde, je fais « Putain, elle est bien la version française. Oui. Qu'est-ce que c'est bien !» Et parce qu'on a complètement oublié que c'était nos camarades qui parlaient à la place d'autres.
Bien sûr. Encore une raison pour que cette langue anglaise qui nous grignote, qui nous gagne, qui nous bouffe, qui nous dévore... Eh bien, on veut que, que tous les Français parlent anglais. Ben, ça serait encore mettre des comédiens au
Écoute,
chômage.
Écoute, il y a encore du boulot parce que, tu sais, il y a des sondages qui reviennent fréquemment. Les Français sont très attachés à la version française. Et quand tu leur demandes comment ils regardent les films, à 83%, ils te disent qu'ils les regardent en français. Donc, je pense que ce n'est pas pour tout de suite.
Bon, j'ai encore un peu d'espérance. Donc, cette émission aujourd'hui est vraiment est d'un positif étonnant. Alors, on avait commencé sur la programmation du Théâtre d'Edgar. Alors, quelles sont les autres pièces ?
Les autres pièces. Alors, on a parlé en parce qu'on était... Voilà. Je suis tellement bavard.
C'est ce qu'on appelle une discussion. Et discussion, voilà, on part...
Et puis, on part dans tous les sens.
On glisse. Voilà.
Écoute, il y a la photo de mon pote.
Mais c'est aussi le plaisir de la radio, de cette liberté qu'on a ici.
Et puis, surtout, tu as une liberté extraordinaire ici. C'est que tu peux avoir des invités qui bavardent pendant une heure et demie.
Voilà.
Ça n'existe plus à la radio. Donc, si tu veux... Nous avons la photo de mon pote qui va s'arrêter fin septembre. Il faut se dépêcher d'aller la voir parce qu'elle est formidable et vous pouvez y aller en famille. Parce que vraiment, c'est accessible par les jeunes, à partir de 12 ans, les gamins, ils se marrent. C'est vraiment bien fait. Vous avez une nouvelle pièce qui a démarré cet été et qui est prometteuse, qui s'appelle Braquage en cours.
Ah.
Alors, Braquage en cours, c'est un...
Dis pas trop, hein, parce qu'il faut pas...
Non, t'inquiète, c'est un pauvre gars. C'est un pauvre gars... qui vient livrer une pizza à la banque. Il est tellement dans la merde qu'il décide de braquer la banque. Mais il est très, très mauvais. Voilà. C'est très drôle. Il y a un côté très cartoon.
Et c'est de qui, cette...
Michael Solerol.
D'accord, c'est un auteur français ?
C'est un auteur français.
Que tu as reçu par la poste, comme ça, ou que tu connaissais ?
Écoute, non, que j'ai connu par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a parlé de lui. Il a eu un prix. Ils ont fait avec cette pièce Avignon en 2023. Ils ont eu un prix à Avignon de la... meilleure comédie, tu sais, il n'y a plus beaucoup de prix, hein, je ne peux plus te donner le nom
oui,
exact,
ben, importe.
Il y en a plein. Mais et ils ont très bien marché en 23, et puis tu vois, il l'a beaucoup joué en province, il a essayé de la monter à Paris, personne n'a répondu.
Rappelle le titre ?
Braquage en cours.
Très bien, d'accord.
C'est une très bonne pièce. J'ai une autre pièce qui s'appelle « Jeu de sept familles », C-E-T-E, de sept familles.
D'accord.
Et c'est un public aussi familial.
Qui se joue depuis un certain temps
deux nouvelles. Braquage en cours, jeu sept familles, ont démarré le 10 juillet. Donc, d'accord. Tu vois, ça vient de démarrer. Ça
très
fonctionne
bien.
Très bien. Jeu de sept familles. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours, depuis, c'est la deuxième année, et je veux les garder jusqu'aux élections, tu vas comprendre pourquoi, cette pièce, je ne sais pas si tu l'as vue.
Couscous.
Du couscous à l'Élysée,
oui.
Qui est vachement bien écrite.
Oui.
Voilà. Et ça, alors, ça marche du feu de Dieu. Et j'étais très heureux parce que j'étais l'autre soir dans la salle parce que j'avais un client pour la tournée qui venait voir le spectacle et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, je lui ai dit, écoute, je viendrai et puis je t'inviterai à dîner derrière parce que j'ai plaisir à passer des moments avec lui. Quelqu'un d'assez fidèle qui prend mes pièces en tournée. C'est l'adjoint au maire à la culture de Torcy. Ah. Tu vois, et on a passé Ciel ma belle-mère, mon Fédo. L'année dernière, ils ont pris la photo de mon pote. Enfin bon, voilà. Et qui est un ancien commissaire de police, il me fait beaucoup rire. Et donc on a passé la soirée ensemble. Et je suis retourné voir le spectacle que je connais par cœur. Toi aussi, tu connais par cœur tes spectacles parce que t'es souvent dans ton théâtre.
Oui, moi je les vois une fois.
Ouais, bon moi je les vois plusieurs fois moi. Et donc j'ai revu couscous à l'Élysée. Écoute, c'est formidable, c'est super bien écrit. Et alors j'étais très heureux. C'est ça que je voulais te dire, parce que dans la salle, tu avais absolument de tout, de tous les âges. Tu avais de toutes les confessions. Tu avais...
Parce que ça se voyait.
sur leur visage.
Oui. Oui, il y avait des dames qui étaient voilées.
Des dames voilées.
Et voilà. Et ouais, mais.
Non, mais c'est très bien.
C'est formidable. Il y avait.
Pas qu'elles soient voilées, mais c'est formidable qu'il y ait des femmes voilées.
Voilà. Et surtout qu'ils viennent. Et qu'ils viennent au théâtre.
Oui, oui.
Tu vois, ça draine un public qui. Nous sommes dans un théâtre à Montparnasse. Moi, je suis toujours. Je te disais ma joie hier soir d'avoir reçu des gens des gamins de 17, 18, 19 ans qui étaient enthousiastes de sortir du théâtre et d'avoir aimé le théâtre. Eh bien, voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Et quand j'ai reçu cette pièce, je te dis franchement. Je ne devrais pas te dire ça, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Mmh. Je me dis, bon, d'accord, ok. Le titre racoleur, du couscous à l'aise et tout. Et puis, j'ai vu. Mmh. Bah, j'ai dit chapeau.
Oui,
c'est super bien écrit, c'est bien joué.
Oui,
je te donne en deux mots. C'est une vieille accoutumée de la politique. Qui est conseillère politique, qui a été conseillère de politique comme. Mais c'est la vie! Qui a été conseillère de gens de gauche, de gens de droite et de gens d'extrême droite, qui a été conseillère de tout le monde, et qui se fait virer du staff de son dernier employeur, et qui va décider, pour le faire chier, de monter quelqu'un et de présenter un arabe à la présidence de la République. Et contre toute attente, ça fonctionne.
Mmh.
Et ça la dépasse. C'est un super sujet.
Bien sûr, c'est tout à fait.
Du couscous à l'Élysée. Donc, il y a ça à voir. Et ça va rester au moins jusqu'au 31 décembre.
C'est là, ça me rappelle, c'est la seule fois où j'ai piqué une vraie colère aux têtes du Nord-Ouest, une vraie, vraie colère. C'était au moment des attentats. Et il y a quelqu'un qui faisait la caisse et qui avait refusé l'entrée à une femme voilée au théâtre.
Ah non, mais ça, c'est pas possible.
Et j'étais scandalisé. Mais vraiment, l'ai insulté, cette. C'est scandaleux, c'est pas parce que voilà, on peut ne pas être d'accord avec ça et accepter les choses.
Mais le théâtre est universel.
Voilà,
mais
exactement, voilà, et ça, et puis c'est justement peut-être pour ça qu'ensuite elle se voilera plus.
Mais bien sûr.
Mais il se trompait vraiment. C'était vraiment grave, quoi.
Bien sûr.
J'étais dans une colère, mais ça, je m'en souviens encore.
On a la chance d'avoir un public très divers à Montparnasse, un public vraiment très alors, t'en as de temps en temps, on leur dit non, faut pas manger dans la salle. Mais ils comprennent parfaitement. Il y en a qui veulent rentrer en été, ils veulent rentrer avec un cornet de glace. Bon, moi, je pense à mes fauteuils que j'ai refaits pendant le Covid. Ils sont très jolis. T'as vu, ils sont très beaux, ils sont très propres.
Bah oui,
voilà, j'ai pas trop envie qu'il y ait de la glace à la vanille sur mes fauteuils.
J'étais au théâtre hier et la personne qui annonce le spectacle nous dit, j'étais avec ma femme, enfin mon ex-femme. Et elle était absolument sidérée parce que le type dit, et puis surtout, hein, ne mettez pas vos chewing-gums, ne collez pas vos chewing-gums sur le. Elle me dit, mais on en est là.
Alors écoute, c'est
d'aller dire aux gens drôle. De ne pas coller les chewing-gums sur les.
Le sport préféré de ma petite chienne.
C'était la Bruyère, hein, c'est pas ouais, n'importe
quel. Non, mais bien sûr, chez Thibaut Houdinière.
Ouais.
Et moi, j'ai une petite chienne, j'ai une Jack Russell, qui est un personnage qui s'appelle Lily. Et son bonheur au théâtre Edgar, elle est très très contente quand elle vient au théâtre. Elle a la queue qui est faite dans tous les sens. Quand elle voit qu'on remonte le boulevard Edgar Quinet et qu'on arrive au 58, elle est toute contente parce que son sport. C'est de faire tous les dessous des sièges.
Ah,
parce qu'elle décolle tous les chewing-gums.
Oh, bah alors là, faut que tu la loues au théâtre La Bruyère. Là, tu vas faire une fortune.
Je jure, c'est vrai. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles.
Non, mais quand on en arrive là, c'est extraordinaire. Comme tu me diras, on nous dit maintenant, comme il fait chaud, il faut boire, donc il faut se mettre à l'ombre.
J'hallucine. Écoute, génial. J'ai pris un. Je suis beaucoup entre la Charente-Maritime et Paris, puisque je te l'ai dit, je vais réaliser ma deuxième passion. C'est je suis l'heureux propriétaire de 5 hectares de vignobles.
Ah.
Et je vais faire mon vin blanc en Charente-Maritime.
Oh là là, mon Dieu.
Donc,
pas du Pinot quand même.
Ah, non, je vais faire du vin blanc.
Bon, voilà. Très bien.
Et je vais faire aussi du pinot parce qu'il peut y avoir du bon pinot.
Oui, ça peut être du bon pinot.
Enfin, ça peut être pas mal.
On va faire le vin blanc.
Bon, moi aussi.
Bon.
Et donc, je fais souvent des allers-retours et moi, je prends, comme tous les gens de Charente-Maritime, je prends mon TGV à Surgères.
Donc, tu pourras m'acheter quand j'irai voir une critique avec des bouteilles de vin blanc.
Totalement.
Quand je viendrai.
Je suis rassuré. Je pourrais même te fournir un carton.
Comme il est bien connu que tous les critiques sont achetés, là, au moins, maintenant, surtout que.
T'auras un carton de 6.
Voilà. Très bien. Bon, je suis plein d'espérance.
Et donc,
encore.
Je prends le TGV.
Décidément, quelle émission.
Je prends le TGV à Surgères très fréquemment. Et la dernière fois, c'était il y a 2 jours. Et évidemment, puisqu'il fait chaud, tous les TGV sont en retard. Et quand il ne fait pas chaud, c'est parce qu'il y a eu un incident sur la voie. Et quand il n'y a pas eu d'incident dans la voie, c'est qu'il y a eu une collision avec un animal.
Ou une petite grève.
Voilà. Donc, je vois cette pub du gouvernement, parce que j'ai eu le temps, j'ai attendu une demi-heure mon train, puisque je suis arrivé déjà une demi-heure en avance, j'ai attendu une heure, puisqu'il y avait une demi-heure de retard. Il venait de La Rochelle, pourtant c'est pas loin. Et je vois cette pub dans une gare fermée, parce qu'il était 21h, donc tu penses bien que la gare de Surgères est fermée. Le slogan, c'était « Buvez », oui, bah, d'accord, ok, pour éviter la déshydratation. Et surtout, rentrer dans des endroits climatisés. Enfin, c'est pas comme ça que c'est dit, mais rentrer à l'ombre. Est-ce que tu crois qu'à 21h, la gare, alors qu'il y a des trains jusqu'à minuit, est-ce que tu crois que la gare de Surgères est ouverte? Non. Il est 21h, il y avait encore du soleil. Il faisait 34. Nous étions, et Dieu sait si tout le monde prend en Charente-Maritime son train à Surgères, le quai était noir de monde, avec il n'y a pas assez de place pour s'asseoir, avec des gens assis par terre, sous le soleil.
Bien sûr. Et on vous disait de voir, et avec la gare fermée.
Et de rentrer à l'ombre alors que la gare est fermée, c'est quand même un gag.
Oui, bah,
on fait avec. Hein.
Oui, puis on peut pas refaire le monde.
Ouais. Non, ça ne sert à rien.
Donc, alors, tes parents n'étaient pas du tout dans le métier.
Pas du tout. Mon papa était ouvrier dans l'imprimerie. Il était typographe correcteur. Comme tu le sais, un métier qui n'existe plus.
Bah, qui n'existe plus.
Oui. Voilà. Mais il était né en 20, mon papa. Tu vois, moi, je suis un fils de vieux. Ma maman m'a eu à 42 ans. Je suis un accident. Tu sais, je suis un bébé au gyno.
Ah oui.
Toi, tu connais le système Ogino,
oui.
Hein,
ah,
avec
oui,
la
oui.
température qui n'a jamais marché. Bah, tu as en face de toi un bébé Ogino. Et ma maman était prof de maths et de français. Mm-hmm. Et mon papa était responsable syndical au très puissant syndicat du livre. Et il était responsable du syndicat du livre pour le groupe Ersan. Donc, tu vois, c'était pas rien. Lui, il négociait avec les frères Ersan à l'époque, qui était le groupe de presse
qui avait racheté le Figaro.
Voilà,
où j'ai travaillé.
Voilà.
Moi,
et donc le Havre Presse, le Havre Libre, puisque moi je suis né au Havre et mes parents ont vécu jusqu'à leur mort là-bas, le Havre Presse, le Havre Libre avait été racheté par les frères Ersan.
Oui.
Donc mon papa était responsable à très haut niveau au syndicat du livre. Donc moi j'ai eu une enfance catholique pratiquant. Le dimanche, à la maison, il y avait un prêtre ouvrier, il y avait un Sénégalais, un Congolais, un Turc. Ma mère faisait de l'alphabétisation. Enfin voilà, militant ouvrier, militant catholique ouvrier. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. J'écoutais tout ça comme j'étais le petit dernier. Mais j'ai 2 frères, 2 sœurs, mais j'ai vécu seul, si tu veux, puisque quand je suis arrivé, mes frères et sœurs m'ont connu tout petit. Et puis quand moi, j'ai eu l'âge des souvenirs, ils étaient partis de la maison.
Bah oui.
Voilà. J'ai une sœur qui a 75 ans. Tu vois, donc j'en ai 63. Donc, si tu veux, j'ai vraiment une vie de fils unique, alors que j'ai 2 frères, 2 sœurs.
Et le goût des livres, le goût de tout ça, d'aller
mon père et ma mère n'ont pas voulu de télévision à la maison. Nous n'avons eu la télévision que quand j'ai eu 13 ans. Et je lisais, comme par hasard, 3 bouquins par semaine. J'allais à la bibliothèque municipale du Havre et j'ai dévoré. En premier, toute la Bibliothèque Rose, le fameux Club des 5,
ben Eric oui.
Blyton.
Très
voilà. Ah oui, Dagobert, le chien Dagobert, Claude, la garçon manqué. Enfin bon, après, j'ai fait tous les fantomètes. Enfin, la Bibliothèque Verte, Et puis j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins. Mon livre préféré à l'époque, c'était « L'île au trésor » de Stevenson. Ah ouais. Je me suis rattrapé depuis. J'ai beaucoup voyagé et j'adore les îles. Et enfin, je ne me suis pas rattrapé, ça m'a nourri. Et puis du théâtre, et puis beaucoup de choses. Et puis j'ai écrit. Je faisais partie des gamins à qui dont on lisait les rédactions
en classe.
Donc j'avais 18 en rédaction et tout ça. Et quand il a fallu que je choisisse, à l'époque, les littéraires, c'était les A, hein, eh bien, mon père m'a dit, alors d'accord, si tu veux faire littéraire, parce qu'ils n'étaient pas trop chauds, et surtout, je n'ai pas du tout envie, les maths m'embêtaient au plus haut point.
Bah, avec une mère prof de maths, il y a de quoi se suicider.
Bah, ils n'étaient pas trop d'accord. Ils m'ont dit, on veut bien que tu fasses ça, mais il faut que tu fasses A5. A5, à l'époque, c'était commencer... Le latin en troisième ou en seconde, je ne sais plus. Mmh. Et c'était 5 heures de latin par semaine. Et ben c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac, j'ai eu 18 en version latine. Et tu veux que je te dise, aujourd'hui, il ne me reste... C'est horrible, hein ? Alors si, les racines des mots, mais me demande pas de...
Je te demanderai pas.
De réciter Rosa, Rosae. Je ne sais plus rien.
Je n'essaye pas de piéger, mais... Mes invités.
Donc voilà, j'ai fait littéraire parce que et puis j'ai écrit ma première pièce de théâtre. Très bien. J'avais 12 ans, tu
d'accord.
vois.
D'accord. Et c'est ça. Et ensuite, t'es monté à Paris. Comment ça s'est passé?
Je suis monté à Paris. Mes parents étaient dépassés par les événements. J'ai fait mes premiers spectacles. J'avais 15 ans. Je faisais du one man show. Je savais pas qu'on terminait par ça en général. Moi, j'ai commencé par ça. J'écrivais mes sketchs en cours de maths, justement.
C'est une remarque pertinente. J'ai terminé par ça.
Voilà, bah oui. Et donc, j'ai commencé à faire des spectacles. Et puis, je savais pas à l'époque. J'étais producteur et metteur en scène. Je faisais tout seul, en fait. J'écrivais, je mettais en scène. J'étais très inspiré par Zouk, que j'adorais.
Mais qui a complètement disparu.
Oui,
humoriste.
Ouais, une humoriste suisse qui était formidable.
Une femme un peu forte.
Ouais, ouais, ouais. Puis qui avait fait quand même beaucoup de séjours en hôpitaux psychiatriques. Bah ouais. Et qui avait des personnages exceptionnels.
Je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs.
Moi non plus.
Bon, d'accord.
Et donc, j'ai commencé par retranscrire des sketchs d'elle et puis les jouer. Elle avait des enfants, elle avait des personnes âgées. Alors, je faisais beaucoup, je faisais déjà plein de voix.
Ah, d'accord.
Alors, je faisais les enfants, puis je faisais le grand-père qui parlait comme ça. Donc, en fait, j'avais 10 sketchs, 10 voix. Mmh. Et c'est ce qui m'a amené au doublage. Parce que quand je suis parti pour Le Havre, puisque mes parents m'avaient dit « passe ton bac d'abord », j'ai eu mon bac le lendemain de mes résultats, j'ai pris le train. Et je suis parti à Paris, où j'étais donc été assistant de production.
Monter à Paris, c'est
ouais,
formidable.
Bah, c'est comme ça qu'on dit.
Eh oui.
Et donc, j'étais assistant de production au départ dans les voix et à la radio. En fait, j'ai rencontré tout l'univers des voix comme ça. Mmh. Et j'avais fait la première partie de Roland Magdan au Havre. Roland Magdan est le premier à m'avoir dit « Toi, tu feras quelque chose dans ce métier ». Il n'avait pas vraiment tort. Mmh. Bon, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai fait des choses.
Ah, oui.
Et si tu veux, les choses après s'enchaînent, tu le sais, ce sont des rencontres. Et puis tu réussis dans quelque chose, et puis les choses se font. Et j'ai très vite voulu passer des auditions dans des cafés-théâtres. Je te passe les détails. Je suis d'ailleurs, j'ai failli faire une audition devant Alain Mallet au Café d'Edgar. Ah. C'est quand même drôle. Et j'ai trouvé que c'était pas bien pour moi, le Café d'Edgar, à l'époque. Que ça me correspondait pas, c'était trop petit. Alors, j'ai été au Point Virgule. Ah. Et j'ai adoré le côté petit théâtre à l'italienne, le petit balcon du Point Virgule. J'ai passé un essai...
Qui avait été racheté par les... À l'époque, c'était les champions de patinage artistique qui avait racheté ça.
Ah ouais, ouais. Alors moi, j'ai connu, ils étaient trois. Oui, il y avait Christian Varini.
Oui, ben moi, j'ai bien connu
tu
Christian.
Tu vois, il y avait Christian Varini, il y avait... qui y avait d'autres.
Ils avaient racheté, oui.
Ouais, ils étaient trois.
Oui, ils étaient trois.
Il y avait Pierre Chevalier, il y avait... Bon, ils étaient trois. J'ai dû, les pauvres, j'ai dû laisser un message pendant 3 mois, tous les jours sur le répondeur. Ils ont dû se dire, on va se débarrasser de celui-là. Ils m'ont appelé. venez nous faire 10 minutes de votre spectacle. Je suis venu, j'ai fait 10 minutes, ça a continué, j'ai fait 20, j'ai fait tout le spectacle. Et au sortir du spectacle, ils m'ont dit, vous commencez en octobre. Et j'ai quitté l'assistanat de production et j'ai démarré au point virgule. Moi, je craque, mes parents raquent. C'était en 83. Parallèlement, j'ai commencé le doublage. Et en fait, c'est parti comme ça. Et j'ai fait 3 ans au point virgule. J'ai fait un carton. Mon one-man show a fait un carton. C'est comme ça que je suis rentré à Récréa 2. Puisqu'à l'époque, c'était Antenne 2, Récréa 2. J'ai fait des émissions avec
Dorothée.
Enfin voilà. Et puis, les choses sont parties comme ça.
Voilà, il nous reste 2 minutes. Alors, avant
deux qu'on... sur une heure et demie, ouais, dites donc.
Est-ce que tu as vu un spectacle que tu pourrais recommander autre que chez toi? Peut-être que t'en
alors,
parce que c'est important aussi.
Bien
de
sûr,
donner
bien
envie
sûr.
De...
Je réfléchis. Le dernier spectacle que j'ai vu, c'est une comédie musicale avec Laurent Lafitte que j'ai absolument adoré.
C'était quoi alors?
Tu sais, c'est La Cage aux Folles.
Ah oui, c'est ça, La Cage aux Folles.
C'est exceptionnel. On est à la hauteur des Américains. Ce comédien est absolument fantastique. Il mérite vraiment son Molière. Mmh. Mais ça, c'est du gros, gros spectacle.
Oui, c'est un gros spectacle, mais pourquoi pas?
Oui,
c'est
non,
pas,
mais voilà.
Il y a des très bons spectacles.
C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je sais qu'ils vont le remonter.
Bon, très bien.
Voilà. Sinon, dans les spectacles, il y a des choses magnifiques. De quoi je pourrais te parler?
Je ne sais pas. Un spectacle que tu as envie.
Parle-moi, toi, d'un spectacle que tu as aimé.
Les spectacles que j'ai aimés, il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Parce que c'est de plus en plus difficile. Au La Bruyère, là, j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu au La Bruyère, là, justement?
Entre deux chewing-gums sous les sièges.
Entre deux chewing-gums sur les sièges, j'ai vu... Je ne sais plus comment il s'appelle. Oublie-moi.
Ah oui?
Oui.
Ouais,
je ne l'avais pas vu.
Oui.
Bon, c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Tu te dis que ça a eu 3 Molières, tu te dis si ça, qui est un bon spectacle. Bon, évidemment,
enfin, tu sais,
à 3 Molières, c'est un peu inquiétant.
Écoute,
quand même pour
tu sais très bien ce que je pense des Molières.
Oui, bien sûr.
Bon,
bah oui.
Moi, j'aurais jamais. Par exemple, moi, je peux t'annoncer, mais alors là, c'est un scoop, hein. J'aurais jamais un Molière de ma vie. Mais ça tombe bien, j'en ai pas besoin.
Oui, bien sûr.
Je m'en fous.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est un peu dommage. Bon, mais le spectacle est pas mal du tout. Les deux comédiens sont très bien. Tout ça, c'est... Oui, oublie-moi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est une histoire de couple. Bon, c'est une histoire autour de la maladie d'Alzheimer. C'est pas mal. Mais enfin, bon, c'est un peu dommage qu'on pense que ça a 3 Molières. Et on se dit, si c'est les meilleurs spectacles de Paris, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. Eh bien, nous allons saluer nos auditeurs, te saluer, te remercier.
Merci de nous avoir écoutés aussi longtemps et merci de nous avoir reçus aussi
longtemps.
Ah ben
non, faut pas remercier les auditeurs, c'est aux auditeurs de nous remercier, bon Dieu quand même. Enfin, j'espère.
J'espère qu'on les a pas ennuyés en tout cas.
Non, j'espère.
D'entendre le libre journal du théâtre Passion Théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère. Émission préenregistrée le 23 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 7 août, de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.